Que Dieu vous bénisse.
Amen.
Relevons nos têtes. Regardons le prédicateur. Relève ta tête, ma soeur. C'est à toi que je parle. Tu es malade? Hein? De quoi tu souffres, ma soeur? La tête te fait mal. Ok. Mais il faut confier ça au Seigneur. Et c'est en écoutant la parole et en la croyant que tu vas vaincre cette maladie. Sinon, tu serais resté chez toi. Mais si tu es venu ici, c'est parce que tu sais que ici est le grand médecin. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Alléluia.
Amen.
Que Dieu vous bénisse. Levons-nous, prenons nos Bibles. Dans Philippiens 2. Nous allons lire de 5 à 11. Notre Père céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu nous accordes encore ce merveilleux temps pour t'adorer, Seigneur. Nous sommes venus ici, Dieu Tout-Puissant, pour te louer et t'adorer, pour écouter ta parole avec humilité, Seigneur, en la croyant, ce qui est aussi une adoration, Dieu de gloire et d'amour. C'est pour cela, ô Dieu, nous te louons et nous te bénissons pour l'amour, pour ta bienveillance, Seigneur Jésus-Christ. Car c'est toi qui nous as donné la force de venir ici, Seigneur. Dieu de gloire, aussi donne-nous la foi pour recevoir ta parole. Que le Saint-Esprit se tienne à côté de chacun de nous et lui révèle ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Car tu as dit que c'est sur la révélation que tu as bâti ton Église.
Amen.
Ô Dieu de gloire, nous te louons, nous te bénissons, Seigneur. Bénis la prédication de la parole. Ô Dieu, je sais que tu gardes tes promesses et que tu as promis parler toi-même et agir toi-même.
Amen.
Seigneur Jésus, circoncis nos oreilles et nos cœurs et aussi mes lèvres et que tout soit pour ta gloire et ton honneur. Et guéris-nous de toutes nos maladies, Seigneur. Touche la sœur accouvie pendant que la parole sera prêchée et qu'à la fin de ce culte, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, il n'y ait pas de faible au milieu de nous.
Amen.
Que tout soit pour ta gloire et ton honneur. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Philippiens 2. De 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux. Sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père.
Amen.
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 Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole.
Amen.
Pouvez-vous asseoir. Nous continuons à parler de notre sujet. Montre-nous le Père et cela nous suffit. C'est-à-dire, montre-nous le Père et nous serons satisfaits.
Amen.
Amen. Lisons Jean 14, de 7 à 12. Le frère Kossi n'a pas de Bible. Je sais que tu sais lire. Tu ne sais pas lire. Si c'est un enfant, mais il faut acheter une Bible enfant. Il y en a enfant.
Pourquoi? Oui, oui, enfant, vous mettez en pot.
Ça coûte combien la Bible enfant?
La Bible, ça, font aussi, oui, oui.
C'est
5 000.
5 000.
Tiens, alléluia. 5 000, c'est pas beaucoup, hein?
5 000, c'est quoi?
À donner au Seigneur, hein?
Ça, c'est la foule, hein?
Tu vois?
Moi.
Hein, si tu peux te priver de quelque chose.
Bon, non, à ce moment-là, des blessings.
Et donner 5 000 au Seigneur, ça sera aussi pour ton propre bien. Parce qu'en retour, tu vas avoir la vie éternelle. Tu connais le prix de la vie éternelle? Imagine un peu combien ça peut coûter. Tu n'as aucune idée. La sœur Gladys, la vie éternelle coûte combien? Ah, on ne peut pas payer ça.
On ne peut pas payer ça.
Non, mais ça a quand même un prix. C'est parce que tu es pauvre que tu ne peux pas payer. Mais ça a un prix. Mais le prix est tellement grand que personne sur terre ne peut avoir cet argent. C'est pour cela que Dieu le donne gratuitement. Mais les gens ne veulent pas le prendre. C'est ça qui est bizarre. C'est tellement gratuit que les gens ne veulent pas le prendre. Ils préfèrent chercher les choses qu'ils vont acheter. C'est pour cela que Dieu a dit dans Ésaïe
55.
Mais pourquoi dépensez-vous de l'argent alors qu'il y a quelque chose qui est sans prix, sans argent? Les choses de Dieu sont sans prix, gratuites. Mais les gens préfèrent chercher la santé dans les hôpitaux. Mais ce n'est que quand ils ont dépensé l'argent dans les hôpitaux qu'ils pensent maintenant à Dieu. Vous voyez? Et ils font toute la vie, ils dépensent, ils sont dans la joie, dans les plaisirs, dans la vie. Ils dépensent beaucoup d'argent pour trouver le bonheur. Et quand ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas trouver le bonheur dans ce monde, alors ils cherchent maintenant Dieu. Mais là, c'est déjà trop tard, ils sont sur le lit de mort. Vous verrez que même les incrédules les plus endurcis, dès qu'il fait un accident, c'est toujours le nom de Jésus qui sort le premier. Alléluia. Mais toute la vie, tu n'as jamais invoqué Jésus. Tu t'es confié au vaudounou. Parce que tu avais confiance en tes vaudous. Pour être fort. Pour dominer les autres. Mais le jour de ta mort, tu te rends compte qu'il y a un qui domine sur toi. Mais c'est trop tard. Alléluia. Lisons Jean 14. Donc frère Kossi, il faut chercher une Bible. Si tu veux une Bible en fond, tu vas la voir. Amen. Jean 14, de 8 à 12. Commençons au verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Alléluia. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Ça veut dire ceci, que les paroles que je vous dis là, ce n'est pas moi qui parle, c'est le Père qui parle. Et les œuvres que je fais, c'est pas moi qui les fais, mais c'est le Père qui les fait. C'est pour cela que le Père est en moi, et c'est lui qui fait tout. Alléluia. C'est pour cela que le même Père nous a dit ici que c'est moi qui fais tout. Vous reposez-vous. Mais vous voyez, on fait toujours encore la même chose. Alors que Dieu nous donne le repos gratuitement, nous nous continuons à travailler. Un frère Jean, tu vois, c'est curieux, non? Dieu te donne le repos gratuitement. Mais tu refuses ce repos-là. Tu préfères travailler. Travailler. Alléluia. Alléluia. Verset 11. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. C'est-à-dire des œuvres que vous voyez là. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Amen. Montre-nous le Père et nous serons satisfaits. Parce que les disciples ont marché 3 ans et demi avec Jésus. Et ils n'ont pas compris Jésus. C'est-à-dire qu'ils ne le voyaient pas. Parce que voir, c'est comprendre. Alléluia. Vous pouvez voir quelqu'un. Vous pouvez le regarder. Mais vous ne le comprenez pas. Vous ne savez pas qui il est. Et c'est comme si vous ne le voyez pas. Vous voyez si le président rentre ici ce soir. Celui qui n'a jamais vu le président. Ah, il ne va pas se lever. Il ne va pas montrer du respect. Parce qu'il ne le connaît pas. Donc pour lui, c'est comme s'il ne voit pas le président. Il voit un homme, mais il ne voit pas que c'est le président. Donc il voit l'homme, mais il ne voit pas le président. Vous comprenez ça? Donc les disciples marchaient avec Jésus. Ils voyaient l'homme Jésus, mais ils ne voyaient pas Jésus. C'est-à-dire le Dieu Tout-Puissant. Ils ne voyaient pas le Fils de l'homme. C'est pour ça que quand il leur a demandé, mais qu'est-ce que les gens disent que moi je suis? Il y en a qui disent que tu es Élie, Jérémie, peut-être que c'est Moïse qui est revenu, ou bien l'un des prophètes.
Quoi.
Il a dit, ah bon? Bon, mais vous, qu'est-ce que vous dites que je suis? Ils se sont regardés. Parce qu'ils ne connaissaient pas Jésus. Alléluia. Et il y a de Pierre, après un certain moment, qui a reçu la révélation. Mais malgré ça, jusqu'à Jean 14 là, quelques jours avant sa mort, Philippe dit, montre-nous le Père. Parce qu'ils n'étaient pas satisfaits. Mais il parle tout le temps de son Père. Mais où est-il le Père? On ne comprend pas. Donc, il est où le Père? Il est au ciel. Mais il dit qu'il est avec lui. Que c'est lui qui fait les œuvres. Mais nous, on ne le voit pas. Nous, on voit seulement un homme. Vous voyez, ils n'avaient pas les lunettes spirituelles. Pour voir que le Père était dans Jésus. Et que Jésus était dans le Père. Ah, ça devient compliqué. Comment l'eau peut être dans un verre? Et le verre aussi est dans l'eau. C'est terrible. Alors les disciples étaient confus. Ils étaient dans la confusion. Et Philippe a pris le courage. Je dis, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Mais Jésus avant lui leur a dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Parce que le Père était en lui. Avec ses yeux, on ne peut pas voir un esprit. Dieu est esprit. Le Père est esprit. C'est le Saint Esprit. C'est cet esprit-là qui s'est divisé en plusieurs langues. Est descendu le jour de la Pentecôte sur les 120 qui étaient dans la salle. Le Père, c'est le Saint-Esprit. C'est la même chose. Parce que le Père est esprit et il est saint. C'est pour ça qu'on dit Saint-Esprit. C'est pas une troisième personne d'une Trinité. Ça n'existe pas la Trinité. C'est une invention des catholiques. Et que tous ceux qui sont sortis des catholiques ont accepté. Parce que Dieu ne leur avait pas redonné la révélation de qui est Jésus. Ce n'est qu'en ce temps de la fin vivant, avec la venue du prophète Branham, que l'Église a reçu la révélation de qui est Dieu. Parce que c'était la mission du frère Branham, le prophète du temps de la fin, selon Apocalypse 10. Verset 7, il devait révéler tous les mystères. À l'heure actuelle, il n'y a plus aucun mystère qui est caché. Et c'est en cela que le frère Branham a complètement accompli sa mission. Alléluia. Et c'est celui qui a eu la révélation de qui est Dieu et qui nous l'a prêché. Et c'est maintenant que nous pouvons savoir que le Jésus et le Père sont un. C'est une façon de dire, on pourrait parler à la rigueur de deux personnes. Il y a le Père et puis il y a le Fils. Mais le Saint-Esprit, c'est le Père. Donc il n'est pas question de dire trois personnes. Mais les deux personnes là, le Père et le Fils, ils sont un. C'est-à-dire que le Père est dans le Fils. Et le Fils est dans le Père. Alléluia. Parce que le Père, c'est l'Esprit. Et le Fils, c'est la parole. Et l'Esprit et la parole sont toujours ensemble. Nous l'avons vu dimanche. Nous l'avons déjà vu et nous le répétons et nous le répéterons toujours. Alléluia.
Amen.
Parce que la répétition, ça nous permet d'apprendre. Dans l'éternité, voici Dieu, il est esprit. Et en lui, il a des pensées. Des attributs. Il voulait être père. Alléluia. Qui est célibataire là? Le père juste. Tu es célibataire.
Non, mais juste envoyé célibataire.
Mais tu veux être père.
Toi,
peut-être pas maintenant. Mais à un certain moment, tu voudras être père. Mais pourquoi? Parce que les enfants sont déjà en toi. Tu vois? Les enfants qui sont en toi là, c'est des attributs. Ils sont là. Mais on ne peut pas les voir. Tu vois, pour qu'on voit les enfants qui sont en toi, il faut que tu te maries. Et que, avec cette femme-là, tu aies des enfants. Mais les enfants-là sont déjà en toi. Donc, nous, les enfants de Dieu, on était déjà en Dieu. C'est ça la prédestination. Éphésiens 1. Béni soit le Dieu de notre le Père de Jésus-Christ.
Et nous donnons Jésus-Christ
qui nous a béni de riches bénédictions.
Et
il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption. C'est là où les enfants de Dieu ont été prédestinés. Voilà, il y a un enfant de Dieu qui vient de dire amen. J'en étais là. Qui dit encore amen?
Amen.
Ah, le frère Basile était là.
Non, mais Basile, le soir au final.
Ceux qui ne disent pas amen n'étaient pas là.
Mais la amen a été au final.
Vous voyez? Donc, les enfants de Dieu, nous étions déjà là. En Dieu. Vous voyez? Donc, c'est ça la prédestination. Caïn n'était pas ici. Judas, il n'était pas ici. Dieu savait que
il y aurait quelqu'un qui va s'appeler Judas. Et qui va trahir Jésus. Mais il ne l'a pas prédestiné. Ça, c'est dans l'éternité. Dieu avait son plan qui va construire une terre. Avec le soleil, la lune, les étoiles. Vous savez, les étoiles, là, il y en a des milliards. C'est pour montrer qu'il est grand. Alléluia. Et maintenant, quand il a voulu maintenant construire ce qu'il avait dans sa pensée, alors il a exprimé ça en parlant. Il s'est fait un corps. Là maintenant, c'est le commencement. Au commencement était la parole. Donc la parole là, c'est tout ça. Qui est sorti de Dieu et qui est devenu le corps de Dieu. Vous voyez? Donc, dans la colonne de feu là, le logos là, la colonne de feu qui a été photographiée là, le frère Basile était là. Le frère Jean était là. Il y a un enfant qui a crié là, c'est qui? Le miel, le frère, le miel était là.
Non, oui, le miel, le
celui qui m'a dit Amen n'était pas là.
Mais là, Amen, là, le frère.
Vous voyez,
dis-moi.
Les attributs là, c'est ça qui est devenu la colonne de feu. Et qu'est-ce que l'esprit fait? Il est rentré dedans. Parce que c'est sa maison. C'est son corps. Mais quand un enfant naît, mais l'enfant n'est pas dans le ventre de la mère. C'est le corps qui est dans le ventre de la mère. Si le corps la sort mort, l'enfant ne va pas rentrer. Vous voyez, il ne va pas rentrer. Son corps est mort. Mais si le corps sort vivant, alors l'enfant rentre. Alléluia. Quand il y a un corps, il faut aussi qu'il y ait un esprit dedans. Donc quand Dieu a parlé, toutes ces pensées, tous ces attributs ont formé la colonne de feu. Et lui-même, il est rentré dans son corps. Et il a commencé à travailler. Parce qu'un esprit ne peut pas travailler s'il n'a pas de corps. Donc Dieu, dans l'éternité, il était incapable de travailler. C'est pour ça que Satan, quand il est venu dans le jardin d'Éden, il a vu Adam et Ève. Il a dit, mais Dieu a fait une chose terrible là. Moi aussi, il faut que j'ai des enfants. Que je viendrai voir le soir. Je veux causer avec eux. Mais c'est terrible ça. Dis comment je veux faire ça. Il s'est rendu compte qu'il ne peut pas créer. Vous voyez? Alors il a cherché un corps pour travailler. Parce que sans corps, il ne pouvait rien faire. Alors il a regardé, comme c'est un scientifique, il a compris qu'avec le serpent, il pouvait accomplir ce qu'il voulait faire. C'est pour ça qu'il est rentré dans le serpent pour s'accoupler avec Ève et avoir
Caïn,
sa semence. Vous voyez, s'il n'avait pas trouvé le serpent, ce corps-là, mais un esprit ne peut pas enceinter une femme. C'est impossible. Vous voyez, il faut un corps. Mais Dieu, lui, Satan ne pouvait pas créer un corps. Alors, il fallait qu'il utilise un corps déjà créé par Dieu. Mais Dieu est créateur. Alors, il a créer son propre corps. Il s'est constitué le corps. Il a parlé. Et c'est ça, son corps. Parce que quand Dieu parle, c'est le feu. C'est pour ça que la colonne, c'est du feu. Hein, le logos, là. Le logos, ça veut dire, en grec, ça veut dire la parole. C'est les théologiens qui ont mis ces mots-là, vous savez, c'est les, ils aiment les gros mots, les théologiens. Et on appelle ça aussi théophanie. C'est-à-dire le corps de Dieu. Théos, ça veut dire Dieu.
Théos,
ça veut dire Dieu.
Théos,
donc la théophanie, c'est un corps qui peut apparaître, disparaître. La colonne de feu est au milieu de nous en ce moment. Mais nous ne pouvons pas la voir. Mais si, s'il veut, il peut se montrer à Frère Emmanuel. Tu le vois aussitôt, il disparaît. C'est ça la théophanie. Mais le corps de chair là ne peut pas disparaître. Mais vous voyez que quand Jésus est mort, il est ressuscité. Il vient, il apparaît au milieu des disciples qui sont dans une chambre, les portes fermées, parce qu'ils avaient peur des Juifs. Et il leur parle, il mange avec eux, et puis il disparaît. Alléluia.
Amen.
C'est
Amen.
Ça. Et donc voici comment Dieu s'est transformé en morphe. C'est ce que Philippiens 2:6 dit, que Jésus était en forme de Dieu. Jésus-Christ, c'est une forme de Dieu. Donc ici, nous avons le Père. Vous voyez. Et nous avons le Fils. Vous voyez? Le Fils. Il est dans le Père. Et le Père. Il est dans le Fils. C'est pour ça que Jésus a dit. Mais ne croyez-vous pas que le Père est en moi. Et moi je suis dans le Père. Parce que Jésus, l'homme, c'est seulement ce Fils-là qui est devenu homme. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair. Et elle habitait au milieu de nous. Alléluia.
Amen.
Et à partir de la Pentecôte, nous aussi, Dieu a commencé à nous faire devenir parole. La parole est devenue chair. Et nous passons de la chair à la parole. Vous voyez, comme vous êtes assis là sur les chaises, quand vous allez manger la parole, vous allez devenir parole. C'est ça que Dieu nous a dit en Anchote, que je vais vous faire devenir comme moi. Alléluia. Donc si nous devenons parole, alors l'Esprit de Dieu peut venir entrer en nous. Parce que partout où il y a la parole, Dieu suit. La parole n'est jamais seule. Si vous voyez la parole, Dieu est dedans. Si vous voyez Dieu, la parole est dedans. Maintenant, si quelqu'un, un esprit vient vous parler, vous allez reconnaître qui est cet esprit-là en écoutant ce qu'il va dire. C'est pour cela qu'on discerne les esprits par la parole. C'est l'Urim Tumim. Vous connaissez l'Urim Tumim? Sûrement la sœur. Comment on l'appelle? Emilienne ne connaît pas l'Urim Tumim. Ni la sœur Ama. La sœur Ama, tu connais l'Urim Tumim? Tu sais lire? Tu ne sais pas lire, mais tu comprends le français. Alors, il faut acheter une Bible
qu'on écoute. La Bible audio. Hein, tu comprends, frère, juste. Il y a aussi la Bible en français que tu peux écouter. Ça y est partout maintenant. Hein, ces petits appareils, ils coûtent même, maintenant, il y a même à 3000, je crois. Je crois même que à Zongo là-bas, ou bien à Misebo, tu peux trouver ça à 1000 francs. Tu mets la Bible dedans, et quand tu allumes ça, dans ton atelier là-bas, ça fait que réciter la Bible du début à la fin. Et tu verras qu'au bout d'un an, tu vas connaître la Bible. Ah oui, c'est pas facile la Bible. C'est pas difficile. Parce que c'est la parole de Dieu. Et quand tu l'écoutes et que tu la crois, elle se dépose dans ton cœur. Et quand le diable vient pour t'attaquer, c'est la parole elle-même qui est dans ton cœur qui sort. Pour répondre au diable. Pour parler au diable. Alléluia. Parce que Jésus a dit que quand vous serez dans les tribunaux, quand vous serez persécutés, ne cherchez pas ce que vous allez dire. Mais le Père lui-même, il va parler. Mais le Père, il est où? Mais il est dans votre cœur. Si vous ne l'avez pas, il ne peut pas parler. Il faut écouter la parole et la croire. Quand nous la croyons, c'est là où elle rentre en nous. Alléluia. C'est ça. Donc voici Dieu au commencement. Le Logos. C'est ça qu'on appelle la colonne de feu. Et c'est cette colonne de feu là qui est devenue Jésus. Elle, Jésus homme, mais ici c'est déjà lui, c'est le Christ, donc c'est Jésus Christ, c'est Christ, bon en levant le Jésus là, mais c'est Christ, mais vous connaissez le nom de Dieu, Dieu s'appelle Jésus
Christ,
parce que le Fils est venu au nom de son Père, le Fils s'appelle Jésus, et le Père aussi s'appelle Jésus. Et Christ là, ça veut dire oint. Donc le Seigneur Jésus était oint. Par l'Esprit de Dieu. C'est pour cela qu'on baptise au nom du Seigneur Jésus Christ. Père, Fils, Saint-Esprit. Seigneur, c'est le Père. Jésus, c'est le Fils. Et Christ, c'est l'Esprit, l'onction. Seigneur Jésus Christ. Non pas trois personnes, mais la même personne de Dieu qui a joué trois rôles. Il était Père. Puis il est devenu fils et il est redevenu esprit pour entrer dans son épouse. Alléluia. Et voici la colonne de feu, le logos, et c'est dans cette forme là qu'il a voyagé dans les âges. Après avoir créé les cieux et la terre, et tout ce qu'ils contiennent, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé l'homme, et il venait sous cette forme visiter Adam et Ève. Jusqu'à ce qu'ils aient péché, et il les a chassés du jardin d'Éden. Et il a placé les chérubins autour de lui, les gardes-corps, pour empêcher que ceux qui ont péché puissent encore venir toucher. Alléluia. Et vous le retrouvez dans Genèse 14. Prenez vos Bibles. Dans Genèse 14, au verset 17.
Verset 17.
Vous savez que l'autre avait été attaqué et il avait été enlevé par des rois bandits. Et quand Abraham a appris ça, alors il a constitué son armée, ses serviteurs, 318 personnes, et il est parti délivrer son frère. Un véritable chrétien. Quand son frère est dans les problèmes, il va combattre pour son frère. C'est pour cela que nous devons prier les uns pour les autres. Alléluia. Et alors, au verset 17, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedor Laomer et des rois, qui était avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé. Qui est la vallée du roi? Verset 18. Melchisédek. Roi de Salem fit apporter du vin et du pain. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut. Maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Alléluia.
Amen.
Vous voyez, Dieu s'est présenté devant Abraham. Parce que Dieu lui a donné la victoire sur ses ennemis. Et après lui avoir donné la victoire, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu partager la communion avec lui. Alléluia. C'est pour cela que vous ne pouvez pas prendre la Sainte Cène si vous n'avez pas vaincu le monde. Il faut vaincre le monde. Si tout le temps vous tombez, vous vous appelez le frère tombé ou la sœur tombée, vous n'avez pas encore vaincu le monde, vous ne venez pas prendre la Sainte Cène avec Melchisédek. Alléluia. Mais Abraham, c'est Melchisédek qui lui a donné la victoire. Et après lui avoir donné la victoire, ils ont pris la Sainte Cène. Alléluia. Et après, qu'est-ce que Abraham a fait? Il lui a payé la dîme. C'est pour cela que vous ne pouvez pas payer les dîmes si vous n'êtes pas vainqueur. Même si chaque mois tu donnes la dîme, quand tu donnes tes 10 000, ton cœur est triste. Parce que tu as donné ton argent à Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? C'est comme si quelqu'un vient chez toi. Chez nous au village, hein, quand tu es en train de préparer la nourriture et qu'un voisin vient, il
ne
faut pas le laisser repartir sans lui donner ce que tu as préparé. Parce que si tu lui donnes pas, quand il repart, il s'attriste. Et comme il est sorcier, il envoie ses démons qui viennent prendre un de tes enfants. Vous voyez? Donc, tu es obligé de lui donner la nourriture. Mais tu ne donnes pas avec joie.
C'est
parce que tu as peur de sa sorcellerie.
Alors,
je voulais manger ma nourriture. Ce poisson-là, je l'ai pêché. Mais
comment
il a senti l'odeur du poisson, il est venu me visiter. Vous lui donnez votre poisson, mais c'est à contre-cœur. C'est comme ça aussi que vous donnez vos dix.
intime.
Moi,
contre-cœur. C'est comme ça aussi que vous donnez vos offrandes. Quand le panier vient, tu ouvres ta touche là. Tu regardes. Tu choisis d'abord quelle pièce tu vas donner. Vous voyez, quand tu vois
500,
Non, pas ça. Tu cherches la pièce de 50.
Alors,
et comme tu ne l'as pas trouvé, c'est 5 francs là que tu mets dans le panier. Tu as donné à contre-cœur. Jésus était dans le temple et il observait ceux qui venaient donner la dîme. Et il a vu, je crois que c'était un pharisien qui amenait un gros billet de 10 000. Au lieu de le cacher, il est venu avec ça comme ça. Pour que le monde voit. Et il l'a mis dans le tronc. Mais une vieille femme est venue. Elle avait seulement 5 francs. Pour que les gens ne voient pas, elle a caché ça. Mais Jésus voit toute chose. Et Jésus a dit aux disciples, vous voyez, entre ces deux-là, c'est la femme qui a beaucoup plus donné. C'est ça. Vous donnez à Dieu, il faut beaucoup donner. Si vous n'êtes pas vainqueur, vous ne donnerez qu'à contre-cœur. Comme maintenant dans les églises, les gens, pour donner, il ne faut pas donner en secret. Il faut que tout le monde voit ce que tu donnes. Celui qui a 10 000, il sort 10 000, il vient, il met dans le panier, tout le monde voit que c'est 10
000.
Et quand l'autre au bout de la salle, il a vu que celui-là a donné 10 000, lui, il sort une liasse de 50
000,
il vient avec ça en courant, et en chantant, il met. Comme c'est le billet de 5 000, les gens pensent que c'est une liasse. Donc tout le monde sait qu'il a donné 50
000.
Et quand un autre voit ça, lui il vient avec une liasse de 10 000. Donc ça fait 100 000. Mais vous ne donnez pas à Dieu. Vous donnez aux hommes et à vous-même. Pour votre propre gloire. C'est pas ça. Dieu ne reçoit pas ça. D'ailleurs, c'est les hommes qui vont manger ça. Ils ne vont même pas mettre ça dans l'œuvre de Dieu. Ils vont prendre ça pour faire le péché. Vous voyez, donc vous tous, vous êtes dans le péché. Et toi qui donnes l'argent aux pêcheurs, à ton conducteur pêcheur, vous tous, direction l'enfer. Parce que vous n'êtes pas vainqueur. Mais quand Abraham a donné la dîme, il avait vaincu le monde. Alléluia. Et c'est Dieu qui lui avait donné la victoire. C'est pour cela qu'il remerciait Dieu. Mais parce que Dieu t'a donné la victoire sur le monde, il t'a donné la vie éternelle qui n'a pas de prix. Mais quand tu donnes ta dîme, 10% de ton salaire, mais parce que tu sais que c'est Dieu qui t'a donné ce travail là, ou bien c'est parce que tu sais que c'est Dieu qui t'a béni, c'est Dieu qui t'a donné la vie éternelle, alors tu donnes à Dieu la dîme, c'est-à-dire tu lui remets son argent, parce que la dîme est obligatoire même pour les païens qui ne payent pas la dîme. Ils doivent à Dieu. Alléluia. Parce que quiconque vit sur cette terre doit donner 10% de ses revenus à Dieu. Parce que la terre là ne nous appartient pas. C'est Dieu qui a créé ça. Nous sommes des locataires. Nous devons payer le loyer de la terre sur laquelle nous vivons.
C'est ça la dîme. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, c'est ça. Donc pour commencer, ce n'est même pas ton argent. Mais pour ceux qui louent les chambres là. Mais à la fin du mois, la première chose que tu enlèves, c'est l'argent du propriétaire. Parce que quand il va se présenter le 5,
on
sait que si tu n'as pas son argent, il ne parle même pas. Tu commences à faire tes bagarres. Ou bien mon frère. Alléluia. C'est comme ça. Nous sommes sur la terre de Dieu. Tu ne payes pas la dîme. Tu ne payes pas la dîme. Quand un jour Dieu va se présenter devant toi, tu vas déjà faire tes bagarres. Parce qu'il est temps pour toi d'aller payer tout ce que tu as fait de mal. Alléluia. Donc voilà Dieu qui est parti visiter Abraham. Mais il s'est présenté en tant qu'homme. Dans un corps théophanique. Si vous voulez savoir qui est ce Melchisédek, lisez Hébreux 7. Paul le décrit là-bas. Paul ayant eu la révélation de Dieu, il dit qu'il était sans père ni mère. Un homme qui est sans père ni mère, c'est qui? C'est Dieu. Melchisédek, c'était cette colonne de feu là. Qui est devenu, qui a pris la forme d'un homme. Il a visité Abraham et après il a disparu. Alléluia. Plus tard, on le revoit dans Genèse 18. Il vient rencontrer maintenant Abraham. Et il est accompagné de deux anges. Ils viennent voir Abraham. Alléluia. Vous voyez, c'est des hommes. Et celui qui était au milieu, c'est le roi des rois. Le Dieu tout puissant. Abraham l'a appelé Seigneur. C'est-à-dire Elohim. Le créateur des cieux et de la terre. Il est venu visiter Abraham parce qu'il lui avait donné une promesse. Que tu auras un fils. Et Abraham a attendu pendant 25 ans. Il était déjà fatigué, physiquement mort. Et sa femme aussi. Il ne pouvait plus avoir d'enfant. Alléluia. C'est pour cela que quand Dieu a dit à Abraham, mais où est Sarah, ta femme? Sarah avant s'appelait Saraï. Abraham s'appelait Abraham. Et peut-être une semaine avant, Dieu est venu parler à Abraham, dit je vous change les noms. Toi, tu n'es plus Abraham, mais Abraham. C'est-à-dire le père des nations. Parce qu'avec ton fils là, tu vas être père des nations. Et ta femme, ce n'est plus Saraï, mais Sarah. C'est-à-dire princesse. Alléluia. Mais c'est Dieu qui a parlé avec lui. Dans les visions, dans les songes, comme il le parlait jusque-là. Et soudain, une semaine après, il voit trois hommes qui viennent. Quelque chose lui dit, ça c'est Dieu. C'est pour ça qu'il a appelé Elohim. C'est la révélation. Alléluia. C'est comme la veuve de Sarepta. Mais quand Élie s'est présenté devant elle, mais elle ne savait pas que c'était Élie. Elle ne savait pas que celui-là qui avait séché la pluie en Israël pendant 3 ans. Mais quand elle allait se fâcher, la révélation descend. C'est Élie. Donne-lui
ce qu'il demande. Vous voyez, tout se fait par révélation. Alléluia.
Amen.
Un jour, le frère Basile passait ici. Quelque chose lui a dit, rentre ici. Et depuis qu'il est rentré, il n'est jamais parti. Alléluia. Parce que il est venu ici, sa soif a été satisfaite. Mais vous, quand vous rentrez, vous repartez. Vous rentrez, vous repartez. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore la révélation que le roi des rois est ici, dans Shalom Tabernacle. Est-ce que je mens? Mais vous ne voyez pas les photos. Vous doutez encore. Alléluia. Tout encore que le roi des rois est ici, Elohim, celui-là qui a créé les cieux et la terre, celui qui a rencontré Abraham, Melchisedec, celui qui a rencontré Abraham ici en Genèse 18 et qui a dit à Abraham, où est ta femme Sarah? Mais comment il connaissait que Sarah avait changé de nom? Nul doute que c'est lui qui a changé le nom. Et quand il a dit, l'année prochaine je reviendrai, et tu auras un enfant, Sarah là-bas, incrédule. Vous savez, l'église est toujours incrédule. Le pasteur croit la parole, mais l'église est toujours en train de douter. Chez nous, on dit, quand tu vas dans un village, les hommes, c'est des voleurs, et les femmes, c'est quoi, chérie? Le doute. Que Dieu te bénisse. L'entêtement. C'est ça dans les maisons. Les femmes, c'est l'entêtement. Et elles transmettent ça aux enfants. C'est pour cela que les enfants sont maintenant devenus rebelles à leurs parents. Mais l'homme, il va voler. Au lieu de travailler, il va voler les poulets d'autrui à 4 heures du matin. Vous voyez, et il amène à sa femme. La femme sait que le mari est parti voler, mais elle prend le poulet avec joie et elle dépèse, elle fuit. Mais si le propriétaire du poulet vient, et toi qui as volé, et toi qui as mangé, vous allez tous en prison. Alléluia. Sarah a douté. Au fond de son cœur, elle n'a pas parlé à haute voix. Au fond de son cœur, elle a dit, comment est-ce possible? Moi et mon mari, mon Seigneur, on va encore devenir des petits-enfants pour faire ces choses-là. Vous voyez, mais elle ne savait pas que c'était Dieu qui était là. Et pour lui prouver que c'était Dieu qui connaît toutes choses. Il n'y a qu'une seule personne sur terre qui peut connaître en ce moment ce que frère Dieu est en train de penser. Ce qu'il a fait ce matin, toutes les courses qu'il a faites pendant la journée avant de venir ici. Une seule personne, c'est Dieu. Alléluia. C'est ça. C'est pour cela que Jésus, quand il est venu, pour prouver aux gens qu'il était le Messie, alors il a discerné leurs pensées. Il ne te connaît pas, il te donne ton nom. Il dit que tu étais là-bas, Nathanaël. Tu étais à Ouida en train de prier, je t'ai vu. Alléluia. Vous voyez, quelqu'un qui est ici à Cotonou, savoir ce qui se passe à Ouida, ça ne peut être que Dieu. Et à plus forte raison, savoir ce que quelqu'un pense dans son cœur. Sarah a douté, Elohim a dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Disons que c'est impossible. Sarah n'en pouvait plus dire, mais quel est ce genre d'homme-là? Mais comment il a su que moi j'ai pensé ça dans mon cœur? Et elle a compris que c'était Dieu. Mais comme elle n'avait pas la crainte de Dieu, elle a menti. Oh non, je n'ai pas ri. Comment ça? S'il y a une chose que je hais, c'est le mensonge. Alléluia. Est-ce que tout le monde écoute? Même celle qui est dans la salle là-bas. Tu es en train d'écouter. Elle n'écoute pas. Frère Basile, viens, dis-lui de venir. Il faut qu'on nous mette des haut-parleurs dans la chambre. Est-ce que tu es en train d'écouter ce que je dis? Je parle à tout le monde. S'il y a quelque chose que je hais, c'est le mensonge. Un enfant de Dieu qui ment. Vous savez qui est le père du mensonge? C'est Satan. Donc chaque fois que vous mentez, vous donnez vos lèvres à Satan. Vous donnez vos lèvres à Satan. Après, vous allez aussi les donner à Dieu. Mais de la même source.
Il ne veut pas
sortir l'eau douce.
Et
puis l'eau amère. Tu viens puiser l'eau le matin. C'est doux. Quand tu viens à midi, c'est maintenant amer. Mais tu vas plus repartir là-bas. Dis non, cette source-là n'est pas bonne. Un homme, une femme, tu mens comme tu respires. Ça veut dire quoi?
Et
vous venez prendre la Sainte Seine. Et vous venez dans l'église du Dieu vivant. Vous voulez que Dieu vous utilise. Mais vous mentez. Ça veut dire que vous n'avez pas encore quitté Laodicée. Parce que les gens de Laodicée, les gens du monde, ils ne font que mentir. Oh, c'est pas possible. Hier, il y a quelqu'un qui avait chargé son téléphone chez moi. Il a laissé le téléphone chargé. Et ça ne faisait que sonner.
Sonner.
Oui, mais celui-là, il a chargé son téléphone, il a oublié. Mais on est en train de l'appeler. Et quand je sors, je le vois. Je dis, ah, mais dis, on dit que tu n'as pas laissé un téléphone à la charge chez moi. Il fait comme si il n'a pas laissé un téléphone. Je lui dis, mais il est en train de sonner. Et dès que je dis ça, le téléphone aussi sonne. Et il court aller prendre le téléphone. Donc il savait qu'il avait laissé un téléphone. Mais il était en train de mentir. Vous voyez? C'est ça que nous faisons chaque jour. Mentir. Même à Dieu, nous mentons. Même si nous savons que Dieu connaît toutes choses. Comme Sarah a menti à Dieu. Mais vous savez ce que Dieu allait faire? Il devait la tuer. Parce qu'elle a traité Dieu de menteur. Voyez, Dieu dit que Sarah a ri. Elle dit que je n'ai pas ri. Ça veut dire que c'est Dieu qui a menti. C'est un blasphème. Ah oui, il devait la tuer. N'eût été Abraham. Et la promesse qu'il avait donnée à Abraham, qu'il aurait un enfant par Sarah. Mais quand vous mentez comme ça chaque jour, mais Dieu va vous tuer. Lui était Christ. C'est quand il voit le sang de Jésus-Christ. Vous voyez, un jour le frère Branham, il est parti dans une buvette. Il avait faim, il cherchait un sandwich. Quand il arrive dans la buvette, il voit une vieille femme, peut-être 80 ans. Elle est assise à la table avec des policiers, avec des gens en train de se prostituer. Le frère Branham a dit, comme dit ma femme souvent, mais quand est-ce que Dieu va détruire ce monde? Dès qu'il a dit ça, Dieu l'a appelé. Il dit, sors de là. Il est sorti.
et Dieu lui a montré une vision. Il a vu la terre était en train de tourner. Et lui, il était redevenu petit. Et il était en train de faire des péchés. De mentir. Et chaque fois qu'il faisait un péché, Dieu envoyait une flèche pour le tuer. Et cette flèche arrivait sur Branham, mais elle rencontrait le sang de Jésus. Le sang de Jésus barrait la flèche. Et la vision, et Dieu lui a dit, non. Et il a dit, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Et Dieu lui a dit, mais moi je te pardonne, mais toi tu ne peux pas pardonner à cette femme-là. Alléluia. Et le frère Branham est revenu, il a dit, Madame, je veux vous parler.
Alors, Madame, je veux vous
dire. Oh non!
Mais
j'ai déjà des gens avec moi. Ça fait trop déjà. Toi aussi, tu veux venir. Dis non, pardon, je ne viens pas pour ça. Je suis le frère Branham. Elle s'est mise à pleurer. Dis non, moi aussi, j'étais chrétienne. Mon mari était diable.
Je vais
rétrograder.
Branham
a dit, il n'y a pas de problème. Voici ce que Dieu vient de me dire. Et là, et tous ses clients, et elle-même, ils se sont agenouillés. Et Dieu les a conduits à Jésus. Branham les a conduits à Jésus. Alléluia. C'est pour vous dire que tous les mensonges que nous faisons là, nu était le sang de Jésus-Christ. Parce que nous étions là. Donc chaque fois que vous montez,
frère
Jean, toi qui étais ici, chaque fois que tu veux monter, imagine-toi que tu étais ici. Et ici, il n'y a pas de mensonge. Celui-là, il s'appelle la vérité. Il est trois fois saint. Et les anges au ciel crient à longueur de journée, Saint, l'Éternel, des
armées.
Tu vas faire Basile, toi qui étais là, tu n'as pas le droit de mentir. Les gens de tout le monde la peuvent mentir. Parce que d'abord, c'est des menteurs pour commencer. Parce que leur père est un menteur, c'est normal que les enfants soient des menteurs. Ce n'est pas leur faute. Mais s'ils vont être brûlés, c'est parce que leur père sera brûlé, les enfants aussi doivent être brûlés avec papa. Ou bien, mais sinon qui va s'occuper d'eux? Mais sûrement pas Dieu. Parce que ce n'est pas ses enfants. Chacun doit s'occuper de ses enfants. Il y a un temps chez nous, quand les parents mouraient, s'il y a des petits enfants là, comme les miens, petit là, on dit, mais qui va s'occuper d'eux? Enterrons-le avec leurs parents. Et on les enterrait là, vivants. C'est comme ça que les menteurs vont aller brûler avec leur père menteur. Mais si vous savez que vous étiez là, chaque fois que vous montez, repentez-vous. Vous voyez, ce qui est encore plus difficile, tu mens aujourd'hui, tu sais que tu as menti, mais tu ne te repens pas. Demain, tu mens encore. Après, tu ne sais même plus ce que tu as dit. Si tu as dit à quelqu'un, je n'ai pas 100 francs, à midi, 30 minutes plus tard, la même personne vient, qui a maintenant 100 francs. Tu lui donnes 100 francs. Alors qu'il y a 30 minutes, tu lui as dit que tu n'as pas 100 francs. Parce que tu mens tellement que je ne sais plus quand est-ce que tu mens et quand est-ce que tu dis la vérité. Ou bien, quand tu dis un mensonge, pour toi ça devient la vérité. C'est comme ça que les gens font. Ils disent, celui-là, comme il fait du commerce, il doit avoir 1 million dans son compte. Le pauvre, il n'a même pas 100 000. Et après, le mensonge, là, rentre chez tout le monde.
Tout le monde sait maintenant qu'il a un million dans son compte. Et on va le tuer pour ça, alors qu'il n'a même pas 100 000. Vous voyez, parce que le mensonge est devenu vérité. C'est terrible, hein. Moi, je hais les gens qui mentent. Vraiment. Moi-même, j'ai appris à mentir. Je sais à quel moment j'ai appris à mentir quand j'étais petit. Parce que je me suis rendu compte que si tu ne mens pas, tu te retrouves souvent dans des situations où tu ne peux plus t'en sortir. Mais avant, je n'aimais pas mentir. Jusqu'à ce jour-là, j'avais peut-être 16 ans. Et j'ai pris la décision de mentir volontairement. Mais quand j'ai rencontré Jésus, j'ai laissé le mensonge.
Et
vraiment, si je mens, c'est peut-être qu'on m'a jamais un pistolet ici. Donc je suis obligé de mentir. Mais vous mentez pour des choses même gratuites. Quelqu'un ne te demande même pas quelque chose. Tu l'appelles. Et tu commences à mentir. Mais est-ce qu'il t'a posé une question? Pourquoi tu le mens? Tu lui mens gratuitement. Et après tu te lèves. Tu vas dans une autre maison. Tu mens encore. Tu quittes cette maison. Tu vas dans une autre. Tu payes même le zem là. 500 francs. Tu vas là-bas seulement pour mentir. Mais c'est pas possible. Comme il y avait eu une prophétie ici là, on n'avait même pas cité le nom de quelqu'un. Mais les gens ont payé leur zem pour aller voir quelqu'un d'autre. Voyons qu'on parlait de cette personne. Vous voyez le mensonge. Et quand ces choses-là rentrent dans l'église, l'église devient de la boue. Mais vous chassez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'aime pas le mensonge. Finalement, je comprends que c'est une tactique de Satan pour que la colonne de feu nous quitte. Alléluia. Mais vous savez, Dieu a dit que je vais briser toute opposition. Quand vous mentez comme ça, Dieu vous regarde. Il va vous caler quelque part. Alléluia. Parce que vous ne pouvez pas détruire cette œuvre-ci avec votre mensonge. Alléluia. Avec les calomnies. Un jour, vous allez entendre que le pasteur est parti courtiser une sœur. Mensonge. Vous voyez? C'est comme ça. C'est pour ça que le frère Branham a dit que les serviteurs de Dieu ne doivent pas aller chez une sœur une femme seule. Il doit partir avec sa femme ou alors avec un autre frère. Il faut jamais se retrouver avec une femme, toi seul avec la femme. Même si tu n'es pas serviteur de Dieu, tout chrétien, il faut jamais te retrouver à deux avec une femme. Mais vous faites quoi à deux? Et en plus, vous avez fermé la chambre. Quand nous sommes en train de prier, vous priez, la porte fermée. Mais quand Daniel priait, il ouvrait les portes et les fenêtres. Alléluia.
Alléluia.
Faites attention, c'est une tactique de Satan. Satan est un menteur. Il va commencer à vous mettre tous dans le mensonge, à raconter n'importe quoi. Vous allez voir, ça va être deux ici. Ils sont en train de mentir. Deux ici, ils sont en train de mentir. Vraiment, ça, Dieu vous regarde. Dieu vous voit. Alléluia. Vous n'allez pas faire tomber l'œuvre de Dieu avec les mensonges. Sarah a prétendu que Dieu avait menti. Mais Dieu lui a dit au contraire, tu l'as dit, tu as ri. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est étonnant de la part de l'Éternel? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui est impossible à Dieu? Alléluia. Plus tard, le même Logos, nous le retrouvons dans Exode 3.
il vient visiter Moïse pour accomplir sa promesse. Il avait dit à Abraham que ta descendance sera esclave pendant 400 ans dans un pays étranger. Et comme le temps était arrivé, alors il est venu rencontrer Moïse dans la colonne de feu. Alléluia. Et il a délivré les enfants d'Israël, il les a sortis de l'Égypte, et dans le désert, il s'est montré à eux dans la colonne de feu. C'est lui qu'on appelle l'ange de l'Alliance. C'est cette colonne de feu là qu'on appelle ange de l'Alliance. Et Paul a écrit dans Hébreux 11, que Moïse avait accepté l'opprobre de Christ. Vous voyez, Christ là c'est la colonne de feu. Elle était dans le désert. Et tous les Israéliens l'ont vu. Et après un moment, alors elle s'est cachée dans le tabernacle. Dieu a dit à Moïse de construire un tabernacle selon le modèle qu'il avait vu au ciel. Il y avait trois lieux dans le tabernacle. Le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. Et entre le lieu saint et le lieu très saint, il y avait un grand voile. Et la colonne de feu était dans le lieu très saint. Elle était dans l'arche. L'arche de l'Alliance. Au milieu de deux chérubins. Alléluia. Et voilà, elle était cachée, elle n'était plus visible. Mais elle conduisait. Quand il y avait un problème, elle venait apparaître à Moïse. Et elle appelait Moïse dans la tente d'assignation. Mais pendant qu'il campait, la colonne de feu était dans le tabernacle. Et quand ils sont rentrés dans la terre promise, alors plus tard, Salomon a construit le temple. Et là aussi, quand le temple a été construit, la colonne de feu est rentrée dans le lieu très saint. Ce temple-là a été construit de la même façon que le tabernacle dans le désert. Il y avait la cour qui est le parvis extérieur. Il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Et la colonne de feu était là. Alléluia. Jusqu'à ce que ce temple aussi soit détruit. Alléluia. Et ensuite il a été reconstruit par les enfants d'Israël à leur sortie de Babylone. Mais la Bible ne dit pas si la colonne était encore rentrée dans le lieu très saint. Parce que Israël avait déjà péché. Mais il y avait toujours le voile qui était là. Et quand Jésus est venu, alors au moment où il a été baptisé, quand il est sorti de l'eau, alors la colonne de feu est entrée en lui. Parce que Jésus était le temple de Dieu. En accomplissant ainsi Malachie 3 qui disait, et soudain, le Seigneur notre Dieu entrera dans son temple. Son temple, c'était son fils Jésus. Parce que l'homme aussi a trois compartiments. Il y a le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. Le parvis extérieur, c'est le corps. C'est pour ça qu'il ne faut, pas vivre dans le corps. Si vous nourrissez la chair et les désirs de la chair, vous vivez dans le parvis extérieur. Et vous êtes sujet aux intempéries. La pluie tombe sur vous, le soleil brille sur vous, hein, tout ce qui est extrême là, c'est sur vous. Vous n'avez pas la paix. Alléluia. Le deuxième compartiment, c'est l'esprit. C'est ça que le lieu saint représentait. Et le troisième compartiment de l'homme, c'est l'âme. Et c'est là où Dieu est rentré dans l'âme de Jésus. C'est le lieu très saint. C'est là où Dieu se reposait en Jésus. Il vivait là. C'est pour cela que le jour de la Pentecôte, les 120 ont reçu la colonne de feu, le Saint-Esprit. Elle est rentrée dans leur âme. Et ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Comme Acte 2.38 dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et ensuite alors, vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit vient habiter en vous. Si vous n'avez pas été correctement baptisé, le Saint-Esprit ne peut pas venir habiter en vous. C'est pour cela que quand Paul est parti à Éphèse, il a trouvé l'église, l'assemblée de Apollos. Apollos était un brillant prédicateur. Un baptiste. Il baptisait les gens du baptême de Jean. Mais quand le messager de l'heure, Paul est venu, il a discerné par le Saint-Esprit que les gens là étaient vides. Alléluia. Je me demande si Branham revient ici, est-ce qu'il va pas en nous regardant voir que nous sommes vides? La question vous sera posée, la même que Paul a posée à ces gens-là. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Les gens se sont regardés. Ils ne savaient même pas c'est quoi le Saint-Esprit. Comme disent les Camerounais. Mais c'est quoi même le Saint-Esprit? Dis-moi, vous ne connaissez pas le Saint-Esprit? Mais de quel baptême vous avez été baptisé? Alléluia! Parce que tous ceux qui ont été baptisés par les apôtres, ils savaient que c'est Acte 2.38 qui était en train d'être appliqué. Ils savaient c'est quoi le Saint-Esprit. Et c'est ce Saint-Esprit-là que chacun de nous doit chercher. Parce que le Saint-Esprit-là, c'est une partie de Dieu. Jésus-Christ avait reçu tout l'Esprit avec lui. En lui. Mais nous, Dieu s'est divisé en plusieurs. Parce qu'il n'y a pas que Jean et Basile qui sont les enfants de Dieu. Il y a des millions. Vous voyez. Donc chacun de nous a une partie de la colonne de feu. Une partie de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Parce que nous avons déjà une partie de cette colonne de feu. Chacun de nous est une partie du Logos. C'est pour ça que quand Jésus était sur la croix, alléluia, chaque enfant de Dieu était en Jésus. C'est pour cela que la Bible dit que nous avons été crucifiés avec Jésus. Et quand Jésus est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Parce que nous sommes une partie de la parole. Et comme nous sommes une partie de la parole, donc automatiquement une partie du Saint-Esprit vient en nous.
Dans notre
Comment nous acceptons Jésus-Christ, bien sûr. Pas quand nous étions dans le monde en train de mentir chaque jour, en train de voler. Mais quand tu te reprends, tu prends ton baptême au nom du Seigneur Jésus. Tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu. Alors, après un certain moment, la partie du Saint-Esprit qui correspond à ta partie de la parole doit rentrer en toi. Parce que tu es prédestiné. Tu es un citoyen du ciel. Tu es une citoyenne du ciel. Aucun de nous ne peut être perdu. Alléluia. Ça doit vous faire sauter. Même la sœur Glasnis devait sauter. À moins qu'elle se considère comme n'étant pas une fille de Dieu. Mais aucune fille de Dieu ne sera perdue. Même quand vous mentez, comme vous respirez, Jésus-Christ sait que c'est le diable qui est en train de vous actionner comme ça. À un certain moment, il va vous rencontrer. Parce qu'il est déjà mort pour vous. Il ne sait que ce n'est pas, il sait que c'est pas vous. C'est pour cela que quand vous vous baptisez, tous ces péchés-là que vous n'avez pas fait, mais que le diable a fait en vous, Dieu les prend et les jette dans la mer de l'oubli. Et ils ne peuvent plus être trouvés. Alléluia. Mais si j'étais jeune, j'allais sauter là. Mais les gens, quand ils me voient, ils me voient avec deux femmes. Mais quand Dieu me voit, il dit, mais tu n'as qu'une femme. C'est la sœur Antoinette. Mais le diable voit que j'ai deux femmes. Pourquoi? Parce que quand j'étais encore dans le péché, j'avais une femme et j'ai fait deux enfants avec elle. Mais quand le jour de mon salut arrivait, Dieu m'a séparé avec cette femme. Alléluia. Et je suis venu au message avec ma femme là que vous voyez. Toute ma vie passée là, Dieu a pris ça, il a jeté dans la mer. Mais les incrédules, ils plongent dans la mer, ils vont chercher mon passé, mais ils ne peuvent plus trouver. Amen. Là-bas, les péchés, là, on ne les trouve plus. Oh, pour finir, je veux vous raconter une petite histoire qui s'est passée au temps de frère Branham. Il y avait un vieux pentecôtiste. Pas les pentecôtistes de maintenant. Les vrais pentecôtistes. Un vieux pentecôtiste. Alors, il avait une fille qui était aussi pentecôtiste, mais pentecôtiste moderne. Les cheveux coupés. Et il faut prendre des boissons sociales. Alors elle avait un salon de thé, elle a invité les gens à la maison. Les sœurs qui s'invitent vont dans la communion fraternelle. Au lieu de parler de Jésus, elle parle tu sais. Et tout ça, mon frère, c'est du mensonge. Tu quittes loin. Tu vas voir une autre soeur. C'est seulement pour aller mentir. C'est Emmanuel. Qui a fait ceci? C'est le frère Félicien. Qui a fait ceci? Elle a organisé ce genre de réunion. Et comme son père, tout le temps, il lisait la Bible. Et chaque fois qu'il lit la Bible, il dit que nous sommes sauvés par le sang de Jésus. Il ferme la Bible, il crie, il pleure, il loue le Seigneur, il faisait beaucoup de prières. Sa fille dit, comment je vais faire, papa? Comme les sœurs vont là venir me recevoir, je vais faire comment? Alors elle a eu l'idée
Dis papa, papa, je t'ai acheté un livre de géographie.
Ah moi, géographie si vous m'avez encore le connu.
La Bible là, je vais garder ça.
Bible là, là.
Tu vas aller dans le grenier là-bas.
Ah oui.
Tu vas lire la géographie.
Ah oui, d'accord. Attends, finis.
Parce que j'ai des sœurs qui vont.
Voilà, géographie, on a vu.
On va prendre un peu de thé.
Bon, mais là, thé quoi.
On va parler des choses de l'Église.
Mais là,
donc, il ne faut pas nous déranger, papa.
Moi, juste avant le temps.
Oh oui, ma fille.
Oh putain, c'est.
Tu promets.
Ah
oui, ma fille.
Oh putain.
Alors, elle prend son papa, met au grenier là-bas.
Bon, avec
la géographie.
Pour la géographie, pas.
Et les sœurs sont venues.
Bon,
elles ont commencé à papoter,
bon,
à calomnier, à médire. Et ceci et cela. Tout d'un coup, il y a un grand bruit au grenier là-bas. Le vieux est en train de sauter, de crier, de pleurer. La fille dit, mon père, je l'ai mis là-bas avec un livre de géographie. Mais qu'est-ce qu'il a encore fait? Elle court vite là-bas. Mais
papa,
ce n'est pas la Bible. C'est la géographie. Dis-moi, ma fille, je connais, mais je viens de lire. Il y a des endroits dans la mer. On ne peut pas trouver le fond. Il a sauté. Il a dit mes péchés ont été jetés. Il a oublié. Et il a jubilé. Et il a jubilé. Alléluia. Mais vous ne jubilez pas. Alléluia. Si réellement vos péchés ont été jetés dans la mer de l'oubli, alors levez-vous. Et nous allons chanter. Nos péchés ont été jetés dans la mer de l'oubli. Alléluia. Oh, combien j'aime cet homme de Galilée. Parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Il pardonna mes péchés, me remplit du Saint-Esprit. Oh, combien j'aime cet homme de Galilée. Numéro 105. Alléluia. C'est pas possible. Mais je crois que la sœur a pu, doit déjà être guérie. Si c'est le pied qui lui manque, hein, sinon elle allait déjà sauter de l'autre côté. Alléluia. Je lisais tout de suite dans les œuvres sont l'expression de la foi. Attends, est-ce que j'ai pas ça ici? Le frère Branham dit, hein, quand vous témoignez, et que vous témoignez que vous êtes guéri, alors automatiquement, Dieu l'accomplit. Est-ce que je vais trouver ça? Bon, comme je n'ai pas préparé ça. Alléluia. Le numéro 105. Dans une crèche il y a longtemps, je sais c'est évident. Qu'un bébé n'a qui sauveur des pécheurs, pécheurs, j'en le vis sur le rivage, lui l'agneau pour toujours, ô Christ, le crucifié du calvaire, ô que j'aime, ô que j'aime, que j'aime cet homme de pour moi, il pardonne
Alléluia. Oui, nous l'aimons. Parce qu'il nous a aimé le premier. Et il est mort pour nous à Golgotha. Et il nous a pardonné nos péchés. Et une douce paix nous a remplis. Si vos péchés sont pardonnés, vous devez avoir la paix. La paix qui vient de Dieu. Qui nous fait rentrer dans le repos. Alors examinez-vous. Si vous n'avez pas encore cette paix, alors allez devant lui et demandez-lui la paix. Demandez-lui le pardon de vos péchés. Si vous avez déjà cette paix, alors louez-le, remerciez-le. Ne lui demandez plus rien. Parce que quand vous demandez, ça veut dire que vous n'avez pas la paix. Parce que si vous avez la paix, vous savez que lui, il fait tout. Et comme il nous aime, il fait tous nos besoins. Il s'occupe de toutes choses. Si nous l'aimons, faisons-lui confiance. Alléluia. Approchons-nous tous du Seigneur Jésus-Christ. Prions tous ensemble.
Thank you.
Mon cœur chante aujourd'hui de joie, d'allégresse. Jésus sauve, satisfait, bannit ma tristesse.
169.
Plus de condamnation, j'ai la paix en moi. Jésus est merveilleux, puissant pour délivrer.
Merveilleux,
merveilleux, oh merveilleux,
oh Jésus est pour moi, conseiller, Dieu puissant, prince de la paix, il me sauve, il me garde, tu es Dieu, oh Dieu, merveilleux et mon rédempteur.
Merveilleux,
merveilleux, merveilleux, oh Jésus est
pour moi,
conseiller, Dieu puissant, prince de la paix,
de la paix,
il me sauve, il me garde, il me tienne en Dieu, merveilleux et mon rédempteur,
les esclaves, maintenant, libre de toute condamnation, Jésus donne liberté et un plein salut. Les péchés, passés nous sont pardonnés et mon nom est écrit dans le livre.
C'est
merveilleux, 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 Jésus est
pour moi,
conseiller, je suis sans. Prince
de la paix,
il me sauve, il me garde, il fait de honte, merveilleux et mort dans ta
vie. Avec mon Seigneur vivant dans la sainte communion, jour après jour je vis dans la douce communion. Ta grâce m'a changé dans ma basse condition. Depuis que mon âme reçut plein salut,
merveilleux, 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 Jésus est pour moi. Conseiller, je suis sans crainte de la paix. Il me sauve, il me garde, il me guérit.
Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur Jésus, pour de ce temps que nous venons de passer en communion avec toi, Seigneur, ou à l'écoute de ta parole. Merci, Seigneur, pour cette parole que tu nous as adressée, Seigneur, pour nous donner la paix, pour nous rappeler que nous étions en toi, oh, bien avant la fondation du monde, et que nous n'appartenons pas à Satan, Seigneur. Mais tu es mort pour nous. Tu as versé ton sang pour nous, Seigneur. Et le diable n'a plus de droit sur nous. Oh Dieu Tout-Puissant, tu l'as dépouillé de tout droit légal sur nous. Ce n'est qu'un imposteur. Ce n'est qu'un usurpateur. Bien plus, ce n'est qu'un épouvantail. Nous n'avons pas peur de lui et nous le condamnons au nom de Jésus-Christ. Nous le chassons du milieu de nous au nom de Jésus-Christ. Nous condamnons le mensonge du milieu de nous au nom de Jésus-Christ et toutes sortes d'agissements contraires à la parole de Dieu. Nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ton amour, Seigneur. Oh Dieu, aucun de nous n'est un menteur, mais c'est le diable qui est menteur. Oh Dieu Tout-Puissant, Tu l'as vaincu à Golgotha, Seigneur. Et nous aussi, nous sommes plus que vainqueurs. Oh, donne à chacun de nous la victoire sur le monde, Seigneur. Comme ça, oh, chacun de nous va te louer, Seigneur, d'une véritable louange. Alléluia. Te remercions pour cette victoire, Seigneur. Oh Dieu, car nous étions en toi, nous sommes sortis de toi, Seigneur, et nous repartons à toi. Amen. Béni soit ton nom, oh Dieu de gloire, Dieu d'amour. Bénis notre retour à la maison, Seigneur. Éloigne toutes sortes d'obstacles que le diable a mis sur notre route. Nous les écrasons au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Donne-nous du repos physique pendant cette nuit, Seigneur, et aussi du repos spirituel, que quand les sorciers vont venir pour nous visiter, Seigneur, ils te rencontrent, ô Dieu Tout-Puissant. Et s'ils sont venus par un seul chemin, ils repartiront par sept chemins. Merci, Seigneur, parce que toi, tu combats pour nous. Merci parce que tu pourvois à tous nos besoins. Merci parce que tu nous guéris de toute maladie, Seigneur. Ô Dieu, béni soit ton nom. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Shalom.
Shalom.